Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrées au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut. Yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de souci.
Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies. Ils sont
dans les campagnes, dans les villes. Charlie, I want my gay right now. Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi, je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous, au sommaire ce soir. À quelques jours du mois des fiertés, on vous donne déjà rendez-vous pour faire la fête. Alors on est au courant, il y a tout un tas de bonnes raisons de ne pas avoir le cœur en joie, mais il y a aussi tout un tas de bonnes raisons d'aller soutenir des lieux, des collectifs et des assos queer ces jours-ci. On vous attend donc le 7 juin prochain à la Flèche d'Or dans le 20e pour une soirée exceptionnelle sur le thème de la transmission. Au programme, un plateau radio, un showcase de l'artiste hyperpop Thanks for Crying et des DJ sets du collectif With Us. On a appelé ça la guinguette du lobby. Prenez vite vos places, le lien est dans la description de cet épisode. Avant ça, ce soir, on parle aussi de fête avec nos invités. Elles sont putes, elles sont performeuses, elles font partie de la troupe du bal des putes. Dans le lobby ce soir, on accueille Olivia Werner et Kata Loba. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. La prochaine édition du bal des putes, c'est le 31 mai à 20h au 3 Baudet. On va en parler. Mais avant, je vous présente l'équipe de ce soir, à commencer par celles qui vont vous interviewer. L'une connaît très bien le bal des putes depuis un petit bout de temps déjà. Salut Lucie.
Salut Colin.
Tu vas nous raconter ça dans un instant. Et puis l'autre a découvert le bal des putes en préparant cette émission. Voilà, ça tombe bien. Salut Zoé.
Salut.
Ça va toutes les deux ?
Au top, très bien.
Ça fait plaisir de vous retrouver dans cette émission. En fin d'émission, il n'y a pas que l'élite Gwyn avec nous ce soir dans le studio, il y a aussi l'élite Transmasque. Salut Mal.
Bonsoir.
De quoi parlons-nous en fin d'émission?
Je vais parler des toilettes, voilà.
Il y a fort à dire sur les toilettes, ta grande passion. À 20h45, l'agenda, et c'est tout naturellement qu'on a décidé de donner la parole à la Flèche d'Or. Salut Aglaé.
Salut Colin.
La Flèche d'Or donc, qui nous accueille, je l'ai dit, le 7 juin dans le cadre de leur programmation spéciale pour le mois des fiertés.
Oui, et on va découvrir le programme ensemble avec Rachida Djellab, responsable programmation de la Flèche d'Or.
Voilà, donc beaucoup de dates à retenir dans cette émission. Sortez bien vos agendas, merci beaucoup Aglaé. Et à tout à l'heure, voilà, vous avez le programme de cette émission réalisé par Suzanne Sinca. On est ensemble jusqu'à 21h, soyez les bienvenus.
Le lobby Radio Campus Paris.
Et Kata Loba et Olivia Werner sont donc nos invités pour le bal des putes dont on va parler ce soir, notamment avec toi Lucie.
D'abord, première question, comment ça va toutes les deux ?
Super bien.
Ça va bien, merci. Et toi ? Très bien, très bien, très bien. Il y a un an et demi, en janvier 2024, je me suis rendue à la première fois du bal des putes. C'était à Fawa, il faisait un froid glacial et j'avais prévu de venir avec des amis. Je ne savais pas grand-chose de l'événement, à part que c'était un cabaret militant, érotique, transdisciplinaire. Je ne sais plus ce qui s'est passé, si j'étais en retard ou si les autres étaient en retard, mais finalement, je me suis retrouvée seule dans ce grand lieu, entourée d'un public qui m'a semblé super jeune, queer, super enthousiaste. Je me souviens avoir vu une succession de numéros au cours desquels j'ai été émue, j'ai ri, j'ai été secouée. Je crois que c'est ça qui m'a marqué, votre puissance, votre désir de vous raconter, vous, de créer de l'empathie, puis de nous emmener pour nous raconter une histoire. Ce ne sont pas seulement des témoignages, c'était un accès à de la création et à un discours politique radical, très clair. On est là, on existe, on a des choses à vous dire. Quand j'ai retrouvé mes amis après les performances, on a partagé ce même sentiment d'avoir assisté à une soirée très généreuse, très exigeante artistiquement et avec son public, et d'avoir eu la chance de pouvoir écouter toutes ces paroles, de voir tous ces numéros. Vous, quel souvenir vous regardez de cette date qui était votre première fois ?
Oui, merci déjà pour cette belle résumé de ce que tu avais vécu chez nous. Oui, ça c'était la toute première édition. Cette toute première édition est différente de ce qu'on fait maintenant parce qu'à ce moment-là, c'était effectivement un cabaret. Et j'avais invité, je crois qu'on était 8 artistes, on était beaucoup. Chaque personne a fait leur propre numéro. J'étais super étonnée que ça a tellement bien marché. On avait un soutien énorme du public. Ça m'a donné grave envie de continuer ça. Ensuite, j'avais envie de, même si j'adore le format du cabaret, j'avais envie de vraiment travailler ensemble, que pas tout le monde vient avec leur solo, mais qu'on crée un show de A à Z ensemble, qu'on l'écrit ensemble, qu'on écrit les textes ensemble et qu'on joue ensemble sur scène. Parce que j'avais envie de montrer aussi le soutien qui existe dans la communauté travailleuse de sexe, et le bal des putes est devenu une lettre d'amour pour cette communauté que j'admire, de qui j'ai tellement appris aussi. Et du coup, suite à ça, j'ai créé un groupe de 5 personnes. Comme avec Olivier.
Dont je fais partie, ouais.
Mais toi, t'étais aussi au tout premier bal de pute.
Oui, j'étais au premier. Et effectivement, moi, j'en garde un souvenir assez incroyable parce que Kata m'a appelée, donc, comme plein d'autres performeuses, pour me dire, voilà, j'ai un lieu, j'ai une proposition politique très engagée, est-ce que tu veux le faire ? Oui, parce que donc, le propos pour moi était très important, mais je m'attendais à ce que, voilà, il y ait pas grand monde de concernés. C'est, le Fawa, c'est une salle dans un quartier de Paris pas très accessible, un peu craignos, etc.
À la Villette, hein, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est très underground, en fait. Moi, j'adore, mais voilà, bon, je le faisais vraiment pour, parce que j'avais à cœur de faire ça. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait 3 personnes et qu'on soit entre nous. Et en fait, ça a été... Mais,
il y avait plein de monde.
Franchement, j'ai rarement vu une ambiance pareille. Donc en fait, j'ai été agréablement surprise parce que c'était fou, quoi. Il y avait un soutien, il y avait beaucoup de monde, c'était plein à craquer. Et oui, à partir de là, du coup, on s'est dit, OK, bah, en fait, il s'est passé un truc, bah, on va continuer, ça prend de l'ampleur. C'est trop chouette d'être surpris comme ça, positivement.
Trop bien, trop bien, trop bien.
Et du coup, juste pour rappel, en France, la judiciarisation et la stigmatisation des personnes TDS encouragent tout un système de violences institutionnelles, administratives et aussi médicales. Les personnes TDS migrantes, surtout, subissent du harcèlement policier, risquent la détention, voire des expulsions. Et dans ce contexte, vous êtes une dizaine de performeuses TDS qui proposent des numéros de danse, de striptease, de stand-up, de chant lyrique, de feu, de pole dance. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous décrivez l'événement comme une lettre d'amour à la communauté des TDS. Et depuis, il y a eu une dizaine de dates, donc surtout à Paris, mais aussi à Bruxelles et à Strasbourg. Et il y a eu plusieurs formats, plutôt pour des festivals ou pour des salles de spectacle. Comment vous est venue l'idée de ce cabaret ? C'était quoi un peu l'idée de départ, à part le fait de vous rassembler
Je crois que j'avais plus très envie d'être tout le temps en colère, parce que j'aimais bien le travail du sexe, certains aspects de ça, et j'avais envie de célébrer ça, mais quand même, il y a plein des côtés qui sont horribles. Et je me suis dit, si j'arrive à créer mes propres conditions ensemble avec des autres personnes dans un contexte érotique, je peux profiter de ce pouvoir que l'érotisme donne et pas de faire profiter de moi. Et de faire reconnaître notre travail vraiment en tant que travail. Donc peu importe si on est épanoui dedans ou pas, qu'on mérite des droits. Et ce qui n'est pas forcément le cas, parce que j'avais vraiment ce problème que j'arrivais pas à travailler dans le club de strip parce que c'était trop dur, enfin c'était super maltraité en fait, alors que c'est un travail qui est beau. Et du coup, je trouvais ça dommage. Et...
Donc là, l'idée, c'est on va créer nous-mêmes nos propres conditions, puisque oui. On ne les trouve pas
et,
là.
Et aussi, enfin, il y a plein d'autres qui font ça déjà, et comme ça, on s'encourage de le faire encore plus souvent, parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui adorent la sensualité et tout, mais dans le club de strip, c'est tellement souvent des bourges, des hommes riches qui y vont parce que c'est pas très accessible, c'est cher. Et c'est normal aussi parce que c'est un travail intense. Et du coup, d'essayer de faire un truc entre les deux, un lieu accessible pour les cuirs. Mais en fait, on fait le spectacle pour tout le monde un peu, pour déstigmatiser. Mais d'abord aussi pour notre communauté, pour dire on est là, on est ensemble, ça va.
Et donc là, vous avez annoncé 2 dates parisiennes bientôt. Donc au 3 Baudets le 31 mai et à la Marbrerie, le 27 juin. Mm-hmm. À quoi faut-il s'attendre ?
Et ben, je peux te dire que le 31 mai au 3 Baudets, c'est une version d'une heure du spectacle. Jusqu'à présent, on faisait des versions de 1h30, 2h. Donc là, c'est une nouvelle version revisitée qui est dans un théâtre. Donc voilà pour la nouveauté. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Kata ?
Ben, en fait, vu qu'on n'a jamais eu les vrais moyens de travailler notre pièce, on a répété un peu notre pièce sur scène souvent. Enfin, pas que c'était pas de la bonne qualité, mais on a essayé des choses un peu dans le sens performance sur scène, parce que les spectacles dans le théâtre classique, ça se répète pendant des semaines. Une performance, c'est quelque chose, tu prends l'énergie du moment, tu te fais confiance en tant qu'artiste et tu vibes. Et souvent, le bal des putes, c'était un peu un mélange entre les deux. On est, à côté d'être des TDS, on est aussi des professionnels du spectacle. Du coup, on a eu de notre côté déjà des choses qu'on pourrait ramener pour pouvoir travailler ensemble, mais en même temps, on a aussi bossé nos énergies entre nous, on s'est connectés pour pouvoir faire à chaque fois quelque chose de nouveau. Enfin, à chaque fois, on a développé notre propos, on l'a raffiné, on a ajouté des choses, on a viré des choses, on a remodulé. Et cette fois-ci, on a vraiment 3 jours où on va juste tout retravailler. Ensuite, on le présentera et on verra si on garde cette forme.
Donc, même sinon, si vous y êtes déjà allé, il faut revenir.
Mais oui, en fait, à chaque fois, c'est nouvelle.
En fait, là, on est rentré en résidence. C'est surtout ça qu'il faut dire, c'est que jusqu'à présent, bah, comme je l'ai dit, le Fawa, c'était très underground. Donc, on a amené notre matière et puis il y a un spectacle qui a pris. Il y a eu des dates qui sont arrivées. Là, on s'est posé. On est rentré en résidence et on a vraiment fait un travail de fond. Et le spectacle, il commence vraiment à se préciser et à être un peu moins... à bouger un peu moins. Après, on garde notre liberté parce qu'on est comme ça. On aime garder la main mise sur notre spectacle. Ce qui est bien, c'est qu'on est des personnes indépendantes. C'est ça qu'on veut revendiquer. Mais voilà, là, on est allé plus en profondeur grâce aux résidences.
Après, c'est aussi un truc. On a fait une résidence au tout début. Quand le nouveau groupe s'est formé, on a fait, on avait présenté au Fawa à ce moment-là et on a fait presque une semaine de répétition. Mais c'était tellement... On venait de se réunir, on venait de regarder qu'est-ce qu'on voulait mettre dans la pièce. Et du coup, c'était super intense comme semaine. Et presque tout un peu s'est créé à ce moment-là. Et maintenant, on a l'occasion de le revisiter et de voir ce qu'on veut raconter.
Et le résultat, ce sera donc le 31 mai au Trois Baudets dès 19h et puis donc à la Marbrerie à Montreuil le 27 juin. Cata Loba et Olivia Werner, Le bal des putes, vous restez avec nous, il est 20h12.
Le lobby.
Et je crois qu'il faut toujours écouter
Radio Campus Paris.
Oui, je suis un peu perdu parce que j'ai toujours pas d'horloge devant moi, je ne sais jamais où regarder. Alors vous le savez, chaque semaine dans notre podcast, on prend des nouvelles de la planète queer et l'actualité nous a emmenés vers le Royaume-Uni où la Cour suprême a rendu une décision de justice restreignant la définition du mot femme à des caractéristiques purement sexuelles. Une victoire de plus pour un lobby transphobe particulièrement actif dans le pays depuis plusieurs années avec notamment, hein, vous le savez, la figure très médiatique de J.K. Rowling et malgré le retour de la gauche au pouvoir l'année dernière. Les associations trans sont bien sûr vent debout devant cette décision qui, précisons-le, n'a pas valeur de loi, mais elle n'est pas sans conséquence. C'est ce que nous a expliqué Margot Mahoudeau. Elle est autrice du livre La Panique Woke et co-présidente de l'association Espace Santé Trans au micro de notre journaliste Sam.
Il est désormais autorisé de discriminer contre les personnes trans au motif de leur transidentité, c'est-à-dire par exemple de créer une association féminine dans laquelle les femmes trans puissent être légalement, explicitement rejetées, quel que soit l'état de leur transition. La même chose du côté des hommes. Il y a des informations sur le fait que les dispositifs de lutte contre le sexisme ne s'appliquent plus aux femmes trans. Et puis, il faut prendre en compte le fait qu'en fait, au Royaume-Uni, on est dans un véritable moment de backlash très très fort sur les droits des personnes trans et qu'il y a beaucoup de gens qui poussent pour que, en fait, cette interdiction, elle s'applique à tous les aspects de la vie, c'est-à-dire les toilettes, c'est-à-dire le sport, c'est-à-dire y compris même certains groupes transphobes qui disent « puisque les discriminations sont désormais si fortes contre les personnes trans, eh bien, la solution de compassion, c'est d'interdire aux personnes de transitionner tout court, puisque ça les mettrait dans une situation de discrimination évidente. »
Voilà, un épisode à écouter en intégralité sur radiocampusparis.org et sur les applications de podcast. Un super épisode aussi pour comprendre pourquoi la transphobie et surtout la transmisogynie ont pris autant d'ampleur au Royaume-Uni. Merci beaucoup à Sam qui a réalisé cet entretien. Allez, l'actualité musicale, c'est aussi un disque concept aux guerrières qui sort ce vendredi et qui rend hommage aux guerrières de l'incontournable autrice et penseuse lesbienne Monique Wittig. Un album qui rassemble Lucie Antunes, PR2B, Théodora, non pas celle de Congolise sous BBL, désolé Lucie, c'est une autre, et la comédienne Anna Mouglalis. A tout de suite. Yeah.
cultive le désordre sous toutes ses formes. La confusion, les troubles, les discussions violentes, les désarrois, les bouleversements, les dérangements, les incohérences, les irrégularités, les divergences, les complications, les désaccords, les discordes, les collisions, les polémiques, les débats, les démêlés, les rixes, les disputes, les conflits, les débandades, les débâcles, les cataclysmes, les perturbations, les querelles, les agitations, les turbulences, les déflagrations, le chaos, l'anarchie.
Guerrière, extrait de l'album Aux Guerrières du quatuor Draga, qui sort donc ce vendredi, 20h17.
Le lobby. Radio Campus
Paris, yeah.
Et on retrouve nos deux invités, Olivia Werner et Kata Loba, du collectif Le Bal des Putes, Lucie.
On assiste en ce moment à davantage de visibilité des cabarets. Quel est votre lien, vous, avec la scène cabaret? Donc vous faites un spectacle, vous nous avez expliqué que ce n'est pas tout à fait un cabaret, ça a évolué, etc. Mais j'imagine qu'il y a quand même des liens. Est-ce que vous revendiquez, est-ce que vous avez des inspirations? Est-ce que vous revendiquez des formes de filiation? Je me suis demandé aussi, est-ce que vous savez si ce format d'un spectacle par des artistes et des pour leur communauté, est-ce que vous savez si dans l'histoire ça a déjà existé?
Ah oui, bien sûr. Ben, je pense que c'était depuis toujours que les TDS se sont exprimés, parce que c'est un genre de travail super intéressant, juste que c'était très souvent pas médiatisé. Mais la première fois que j'ai vraiment décidé que je voulais créer le bal des putes, c'était quand j'étais invitée à un festival qui s'appelle Snap Festival, qui était créé par Marianne Chagrois. Et j'avais montré le tout premier croquis du bal des putes là-bas. Et suite à ça, j'ai ensuite essayé de créer des groupes avec des différents gens pour faire ce projet.
Et je me demandais, parmi toutes celles qui composent la troupe du bal des putes, est-ce que vous aviez toutes une pratique de la scène avant? Ou est-ce que pour certaines, ça a été la première fois qu'elles sont montées sur scène?
Non, je crois que tout le monde était... Enfin...
Non, on est toutes, toutes les cinq, actuellement, le groupe du bal des putes. On est cinq professionnels du spectacle et on a une vraie pratique de la scène. Et y a même, on a toute une carrière, même à côté du TDS professionnel. Je pense notamment à certaines... je pense à Jumbo Godès qui est dans des comédies musicales. Mmh. Moi, ça fait presque 10 ans que je suis dans le monde du spectacle. Toi, tu as fait des études dans le cinéma, je te le rappelle. non, mais elle oublie elle-même. Mais nous, on a quand même une connaissance forte du milieu scénique.
Enfin, aussi, moi, j'ai commencé la scène avec le théâtre érotique. Et du coup, c'était intéressant comme expérience parce que forcément, tu respectes un peu moins ton public. Et c'est super intéressant comme expérience. Donc, vraiment, tu déconstruis un peu cette peur du public parce que tu t'en fous des vieux mecs qui veut juste voir des seins, tu vois. Et je crois que j'ai beaucoup appris de ça, en fait.
Trop intéressant, dans la relation avec le public et de déconstruire. Ouais. Trop intéressant. Et donc, ça s'appelle le bal des putes, vous le nommez comme un bal. Et à Fawa, la première fois, quand je vous ai vu, à la fin, ça se terminait avec... Enfin, il y avait de la musique et tout le monde s'est mis à danser. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez gardé, la volonté de voir à la fin le public avec lequel vous avez partagé ce moment-là, d'avoir un moment de fête, d'une forme de communion dans de la danse ensemble? Il y avait aussi un format à la station avec du club. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de conserver par la suite?
Bah oui, grave.
Absolument, on fait quasiment toujours dès qu'on en a l'opportunité. Il y a beaucoup de stands. En fait, le bal, il y a notre spectacle, mais il y a un avant et un après avec des DJ sets qui continuent la soirée, des stands. Il y avait vraiment des fois le Strass vient. Donc il y a une volonté d'informer en dehors du spectacle et en fait de continuer aussi de discuter avec notre public de ces questions politiques, en fait, de faire perdurer au-delà de la scène.
Aussi faire des collaborations, faire des convergences de lutte. Par exemple, Soit Ému, c'est souvent nous faire du...
Notre première partie.
Ouais, une première partie où justement la Widas nous a invités. Et aussi pour les soirées, c'est cool de collaborer. Là, on va faire une collaboration avec Afro Queer Rising, qui va faire la partie club après le bal des putes pour le 27 juin. à la Marbrerie.
Génial.
Et du coup, comment vous préparez une date? Parce que tout à l'heure, tu as dit que c'était un peu moins un cabaret et que vous essayez vraiment de faire un spectacle plus collectif et pas une succession de numéros. Mais par exemple, là, donc, vous allez faire une petite résidence, mais ça va ressembler à quoi concrètement? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quel type de performance qu'on visualise?
Bah, c'est un spectacle pluridisciplinaire, ça, c'est sûr. Je dirais qu'on est dans une pièce de théâtre avec des performances à l'intérieur.
Donc il y a une histoire qui se déploie.
Ouais, en tout cas, tout est lié. On a vraiment mis du lien. Et ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, on sort quasiment plus de scène. Voilà, on est toutes les cinq. Après, ça bouge, etc. Mais on n'est plus, en tout cas, dans ce qu'on peut voir dans le cabaret où il y a un solo, ensuite un autre, ensuite un... Là, tout est mis en commun, en fait.
Tout est collectif.
Ouais.
Ouais, on voulait beaucoup plus pousser cet côté-là. Mais en même temps, c'est un nouveau format qu'on teste. Avant tout, une raison pourquoi on a créé le bal des putes, c'était pour reprendre la parole. Parce qu'il y a... Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment un avis sur ce que c'est, le travail du sexe, mais dans une petite boîte. Et ce qui est très important pour nous, c'est de montrer, en fait, c'est un secteur de travail tellement vaste, il y a tellement des façons différentes de faire le travail du sexe. Et du coup, nos besoins sont différents et nous avons des attentes différentes. Du coup, c'est vraiment pour changer l'idée de vouloir nous sauver déjà, parce que tout le monde devrait être sauvé du travail. On est d'accord avec ça. mais du coup, si on est forcé de travailler, juste laissez-nous décider nous-mêmes qu'est-ce qu'on va travailler, comment on va le faire, mais comment on peut avoir des droits dedans. Et du coup, ça ne raconte pas une histoire narrative dans ce sens, ça raconte juste notre actualité. C'est en mode, franchement, on est encore là.
Ça raconte comment on se saisit des moyens de production, en fait, si je le mets en... terme plus communiste, il y a un truc comme ça, c'est votre propre démarche que vous mettez en scène, quoi. Il y a un peu de ça.
Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'argumentaires en plus des performances, qu'il y avait peut-être moins dans le premier bal où on venait exprimer ce qu'était le TDS au sein d'un numéro.
Si, il y a déjà ça au premier bal aussi.
Bah, par exemple, Gabi qui fait du stand-up, mais là, on a toutes des témoignages, on a des textes précis. Tu vois ce que je veux dire? L'aspect témoignage, là, il est très très fort. Et des textes qu'on a vraiment travaillés, mis en commun, etc.
Forcément, en tant que travailleuse de sexe, tu fais une certaine étude sur la société. Parce que tu crées des espaces intimes, c'est ton travail, tu crées des cadres intimes, et du coup, nous avons une vue qui est sous-représentée déjà, parce qu'on est, mis dans une situation qu'on est moins pris en sérieux, mais en fait, c'est super intéressant ce que les TDS ont à dire. Parce qu'on nous raconte beaucoup de choses.
Et là, vous employez le mot TDS, mais ça s'appelle le bal des putes. Pourquoi c'était important pour vous de mettre en avant ce mot?
Vas-y. Parce que c'est impossible de l'effacer de notre quotidien. Tout le monde appelle tout le temps tout le monde une pute. Et moi, ça me met plutôt en colère si quelqu'un appelle Marine Le Pen une pute. C'est pas une pute. En fait, pourquoi tu utilises ce mot pour elle, tu vois? Enfin, je sais pas. Du coup, c'est un peu une façon de le réapproprier, de le banaliser d'une certaine façon, que même nous, on l'utilise maintenant pour nous-mêmes, donc vous pouvez plus nous faire mal. Enfin, il y a plein des approches différentes, je pense, mais de toute façon, c'est là le mot, tu vois.
Et puis remettre aussi les choses dans le contexte où pute veut dire prostituée, c'est tout.
Mais prostituée, même, c'est un mot stigmatisant, tu vois. Enfin,
du coup, ça questionne ça, ouais.
En fait, c'est une façon peut-être aussi de se moquer, parce que tout le monde s'autorise d'utiliser ce mot. Donc, c'est pas un gros mot, en fait, parce que tout le monde l'utilise tout le temps. C'est banalisé en soi. Et du coup, maintenant, peut-être, on met de nouveau un peu un poids, mais en même temps, on se prend pas trop au sérieux, tu vois. Enfin... Et aussi, je crois que le premier succès qu'on a eu, c'était aussi parce que ça s'appelait le bal des putes. Si on leur a appelé le bal des TDS, personne n'aurait compris de quoi on parle, tu vois.
Bien sûr. Et justement, tu le disais, alors que le TDS est partout dans la société, autour de nous, les représentations auxquelles on a accès, elles sont très peu nombreuses, elles sont très enfermantes, très stigmatisantes. On suit toujours des personnages dans les films, dans les séries, dans les récits TDS qui sont isolés, qui sont traumatisés, entre la glorification, la victimisation, avec toujours, comme tu disais, le besoin d'être sauvé. Il y a toujours ça. Et dans votre spectacle, dans votre projet, au contraire, on découvre une complexité, une pluralité de vos récits. Ce projet, moi, j'ai l'impression qu'il permet aussi de changer les représentations sur ce que c'est que le TDS et qui vous êtes au réel, quoi. Vous avez eu des retours comme ça de spectateurs, spectatrices qui vont...
Enfin, en même temps, j'ai même envie de... Enfin, parce qu'on avait parlé de ça avant, qu'on a un peu marre d'être dans cette fine ligne entre glorification
et victimisation
parce qu'en fait, on a le droit de faire le travail du sexe parce qu'on veut être sauvé. On a le droit de le faire pour ça. On a le droit de faire son espoir de Pretty Woman. En fait, tout le monde veut avoir sa retraite. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est un peu mode... Enfin, on a le droit de parler qu'est-ce qui s'est mal passé. On a le droit de parler qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qu'on aime sans avoir peur de ça tout le temps, un peu, je pense.
Simplement remettre les choses dans leur contexte, dans le fait que c'est un travail. En fait, ni plus ni moins. On n'a pas à se justifier si il nous plaît ou il nous plaît pas. On a tous besoin de travailler pour survivre au capitalisme. Donc laissez-nous faire nos choix.
Eh ben merci, c'est un bon mot de conclusion, même si on vous retrouve dans un court instant. Je rappelle que le bal des putes, c'est donc ce samedi. En fait, c'est ce samedi, on dit 31 mai, mais c'est
absolument.
Samedi, c'est là, à 19h, aux 3 Baudets. Restez avec nous.
Toujours en attaque pour les mecs stylés, ceux qui flinguent fort. Yes, frérot.
Il propose Coco Chanel d'un coup, je l'aime beaucoup. Fifi, un coucou chez elle, elle me dit je te vois partout. Toi, c'est flash, et comme t'aimes pas quand c'est tout doux. Mais moi, j'aime celui qui sort du cash, qui sort tout doux, 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 doux. Son cœur fait tout doux, 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 doux. Moi, je flingue genre tout doux, 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 doux. Mes talons, c'est des loups, ils claquent au sol, genre tout doux, 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 doux. Il m'aime, il aime doudou, doudou.
Elle veut que je dépense mon oseille, j'envoie du champagne. Je commence par satellite, je finis par diamant chopard. Quand le bigo fait brrr, bigo fait brrr. J'arrive en brrr, j'envoie la brrr. Nous font les PDG, c'est pas la R. Regarde nos pockets, c'est rempli de ff. Je rentre dans sa juste après côté, nous dans le coste. Qui sur le côté, elle sait qu'on est côté. Donc on parle en codé, j'ai le coup gelé. T'es moi la ice, j'allume mes caisses comme Ice Spice. Chopin, Rivoli, Saint-Honoré, Apple Pay, je regarde plus le price. Il me faut trois baby comme Néo. Néo, Néo, Néo. Je la fais jumper pour papy. Elle trouve ça mignon,
j'suis
mignon.
C'était un extrait du premier album de Théodora, 20h29.
Why can't I say the word? I mean, why can't I just say
le lobby?
Susan, I'm gay.
Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours pour quelques instants encore avec Olivia Werner et Cataloba du Bal des Putes. Zoé.
Oui. Du coup, vous êtes un collectif qui n'est pas attaché à un lieu en particulier. Enfin, si j'ai bien compris, vous êtes surtout en Île-de-France, mais vous avez aussi fait des dates dans d'autres villes. Comment ça se passe si comment vous avez fait des dates par exemple à Bruxelles et à Strasbourg? Est-ce que c'était parce que vous avez été invité par des lieux ou est-ce que c'est vous qui avez envie de sortir un peu de Paris? Enfin, en termes de géographie, comment ça se passe?
Je pense que c'est un peu les deux. À Bruxelles, on était invité justement par le Snap Festival, par Marianne Chargrois. Et ça, c'était très cool parce que...
Est-ce que tu peux nous dire, Kata, quelques mots sur le Snap Festival?
Alors, le Snap Festival, c'est un festival organisé par les travailleuses de sexe, voilà. Pour les travailleuses de sexe, qui parle de politique, de l'art. C'est vraiment un festival qui est créé pour soutenir la communauté. Ils ont eu des belles salles, des grandes salles. Et du coup, cette année-là, c'était en Aldes Kerbeek. Et c'était très cool pour nous de pouvoir jouer devant... Un grand public qui est nouveau, qui était très bienveillant. Et on a très envie de revenir à Bruxelles. Donc si vous connaissez des gens à Bruxelles qui veulent nous inviter.
Parce que j'allais dire, les déplacements et tout, etc. C'est aussi une question économique où c'est peut-être pas très facile de vous déplacer en groupe, de rester plusieurs jours pour préparer le spectacle dans un lieu. Je sais pas si c'est quelque chose qui
vous... Oui, c'est intense.
Ouais, je sais pas si c'est... Si vous auriez envie d'aller dans d'autres villes de France ou pour l'instant vous êtes surtout basée en Île-de-France.
Non, mais on a très envie de faire une tournée de justement parce que beaucoup de choses se passent à Paris, mais enfin on veut déstigmatiser avec notre spectacle. C'est pour ça en fait on veut aller partout. Ça existe en anglais aussi le spectacle.
Oui, bah on l'a fait. Ouais, tout est traduit. Et on a été à Amsterdam aussi. Ah du oui, coup c'est assez emblématique.
Bah oui. Pour le ouais.
Et du coup, vous êtes un collectif militant, féministe, queer. Et sur votre compte Insta, on retrouve beaucoup de liens et des ressources sur la réalité du TDS en France. Vous avez même un manifeste. Et parler de TDS, c'est aussi parler de rapports de force et de domination. Et certains numéros évoquent notamment la fétichisation des femmes noires. Et ou encore d'autres, le coût financier que ça représente de transitionner, par exemple. Pourquoi pour vous, c'était important d'aborder ces questions ?
Bah, justement parce que ça fait partie de la vie quotidienne de certaines TDS. Et...
Bah parce qu'il y a une très grande diversité parmi les TDS. Déjà, TDS, en fait, ça regroupe plein de métiers. Les gens pensent à la prostituée, l'escorte, mais en fait, il y a plein de façons d'être TDS. Et au sein de TDS, bah, y a plein d'histoires différentes et de profils différents.
Est-ce que vous arrivez à vous retrouver dans les luttes queer et antiracistes ?
Bah oui, bien sûr. Grave. Enfin, ça fait partie pour moi. Il n'y a pas de lutte queer sans le TDS. Enfin, ouais. Parce que c'est malheureusement un truc que dans le cercle gauche et tout, qu'il y a des gens qui sont complètement putophobes. Et c'est grave dommage, tu vois, parce qu'il y avait aussi des syndicats qui a été plutôt phobe et du coup des syndicats de travailleuses et du coup je me suis demandé mais enfin qu'est-ce qu'on est du coup, on n'est pas des travailleuses aussi qui sont avec les luttes des travailleuses enfin
Donc putophobie dans le milieu syndical du travail, mais est-ce que la communauté queer produit des espaces dans lesquels vos voix elles sont entendues ou est-ce que c'est difficile d'y trouver sa place encore aujourd'hui?
Non, dans le milieu queer, j'ai l'impression que c'est plutôt accueillant pour nous. C'est là, on se sent plutôt chez nous, globalement.
Mais parce que c'est vrai que ça va pas forcément. Enfin, je sais pas si ça va pas de soi, mais en tout cas, on n'y pense pas forcément. Le fait que les luttes des putes devraient faire partie aussi des luttes pour les personnes trans, etc. C'est pas forcément.
En fait, c'est quand même quelque chose qui est souvent lié. Tu vois, enfin, souvent parce qu'on est queer, on a moins de place dans un champ de travail normé entre guillemets. Du coup, enfin, beaucoup des TDS sont queer.
Et puis en fait, on a à cœur de parler des minorités, puisque être, c'est vraiment, ça fait partie de l'essence de notre spectacle.
On voulait aussi que ce soit safe pour les minorités dans notre spectacle.
C'est notre souhait que les gens puissent se sentir bien.
Après, une raison pourquoi c'est compliqué de se faire entendre en tant que TDS, c'est que beaucoup de gens n'ont pas le privilège de pouvoir être out. Nous, par exemple, on peut, parce que c'était quand même un processus, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va encore nous arriver maintenant que les gens savent que...
Être out en tant que TDS...
Mais par exemple, si tu as des enfants à ta garde, ou si tu as un autre travail à côté, ou si tu as un certain lien avec ta famille, enfin, pas tout le monde peut juste être honnête sur ça. Enfin, on a beaucoup des alliés qui disent qu'elles sont des alliés alors que...
Oui, d'ailleurs, il y a des personnes qui nous reprochent d'être, c'est ce qu'elles disent, des personnes j'ai pas mes mots, c'est ce que tu viens de dire. On a ce privilège, des personnes privilégiées, des femmes privilégiées.
Ah, on nous a reproché ça. On nous a reproché que nous, on s'exprime alors qu'on est privilégiés. Et du coup, mais vu qu'on peut, faut que nous on s'exprime.
Mais c'est parce qu'on est apparemment, après ils ne nous connaissent pas, mais apparemment nous sommes des femmes privilégiées. Et justement, si tel est le cas, c'est pour ça qu'on le fait en fait.
Parce que nous on risque moins si on le dit. Enfin, ma famille n'a pas arrêté de parler avec moi. Maintenant, elles savent parce que le bal des putes est devenu plus grand. Elles ont vu dans.
Donc c'est le bal des putes qui vous a permis aussi d'être plus à l'aise ou en tout cas de pouvoir.
Grave. C'était aussi une idée pourquoi je voulais le créer parce que j'avais pas envie de cacher qui je suis. Et je me suis dit, déjà, je n'avais pas du tout envie de m'exprimer seule sur ce sujet parce que sinon, tout le monde va me dire, mais tu n'as pas présenté ça et ça et ça, mais on ne représente pas toute une totalité, on représente nous et on essaye de contribuer à une déstigmatisation avec notre représentation.
Bien sûr. Et tout à l'heure, tu évoquais le STRAS, qui est un syndicat pour les travailleuses du sexe. Vous avez beaucoup parlé de travail, enfin, c'est dans le terme travailleuse, travailleuse du sexe. J'ai lu dans une interview que vous disiez on ne peut pas protéger les TDS sans parler de droit du travail. Quand on parle de chômage, d'assurance maladie, d'accès aux soins, est-ce que vous pouvez nous raconter cette réalité-là? Parce que vous disiez que dans le spectacle aussi, c'est quelque chose que vous avez envie de transmettre au public, enfin, de faire de la pédagogie, vraiment, de raconter cette réalité-là.
Ben, en fait, dès que tu veut protéger quelqu'un sans donner des droits à cette personne, tu opprimes cette personne en fait. Tu n'es pas du tout en train de protéger. Et du coup, c'est juste en fait, on a envie de montrer à quel point c'est ridicule et hypocrite la façon comment ça marche. Enfin, on a fait l'analogie aussi à l'industrie textile.
Oui, on sait très bien le désastre de l'industrie textile et pourtant on n'a jamais voulu supprimer le travail. Oui. Dans cette industrie-là, alors que dans le travail du sexe, c'est ce qu'on souhaite faire. Donc bien ça sûr. N'a aucun sens.
L'argument pourquoi le travail du sexe doit être criminalisé et tout, c'est parce qu'il y a beaucoup de violence. Mais du coup, dans les mariages, il y a énormément de violence aussi.
Il y a l'analogie du mariage.
Oui, l'abolition
aussi.
Des mariages. Tu vois, soyez cohérents au moins. Enfin, ça fait pas de sens.
Et avec aussi tout ce discours de oui, tu vends ton corps, mais peut-être qu'en fait, dans le capitalisme, on est tous un petit peu obligés de vendre nos corps.
Ah, mais absolument. Enfin, on est tous forcés de travailler pendant que les ultra riches détruisent le monde.
Vous avez une dizaine de dates à votre actif, dans plein de lieux, plein de villes différentes. J'imagine que vous avez testé plein de choses. Comment est-ce que vous imaginez la suite? Pas la suite tout de suite là en mai-juin, mais la suite encore plus tard. Est-ce que vous avez des projets, une vision pour la suite du Bal des Putes?
Déjà, on aimerait bien s'attaquer au théâtre subventionné pour aller vers ce public-là. Ça nous intéresse.
D'être prise au sérieux sur une autre façon parce qu'on a plein des milieux underground qui nous soutiennent, enfin aussi comment ça a commencé et tout. Mais d'être soutenue par un truc national, c'est une autre échelle. Et du coup, parce que ce qu'on veut, c'est que le travail du sexe soit décriminalisé. Ça, c'est comme en Belgique, par exemple. Enfin, du coup, notre spectacle, on veut vraiment changer les avis des gens. Et à chaque fois, quand même, qu'on fait ce spectacle, justement, on a joué à Strasbourg dans un théâtre qui venait d'ouvrir. Et du coup, nous avons eu un public complètement différent. On n'avait pas que les cuirs gens à Paris qui sont bienveillants et qui sont de notre côté déjà, tu vois.
Bien sûr.
On a vraiment changé leur avis. Ils sont venus nous voir après. On dit, franchement. Et du coup, c'est le but, en fait.
Oui, parce qu'on adore jouer pour nos communautés, mais du coup, c'est un spectacle déjà qui est public. Tout le monde peut venir le voir. Enfin, au-dessus de 18 ans, quoi. mais voilà. Et l'idée, il y a une idée informative aussi, justement. Alors, c'est super d'être validé par notre communauté, mais on veut aussi se confronter aux avis divergents.
On ne veut pas forcément se confronter à ces avis, mais on veut juste avoir de l'influence sur leur avis.
Merci beaucoup, Cataloba et Olivia Werner. Le Bal des Putes, c'est donc le 31 mai au 3 Baudet à Pigalle. Et puis, ce sera le 27 juin à la Marbrerie à Montreuil. On vous met le lien dans la description de cet épisode et sur le site de Radio Campus Paris à la page du lobby. Dans un instant, la Flèche d'Or s'apprête à célébrer le mois des fiertés dans un contexte économique tendu. On en parle juste après avoir écouté une artiste qui va se produire justement à la Flèche d'Or ce vendredi à l'occasion de l'Afterlife Party. Donc, c'est la veille du Bal des Putes. Vous pouvez faire les deux. Voici Songe sur Radio Campus Paris.
C'était en février, une électricité, du glacier à la mer. Un jour je voyagerai, traverser à la voile, si loin de tous ces drames. Du turquoise au corail, folie qui m'accompagne. Souffle fort et tourne les pages.
battement du temps. C'était Songe à l'instant dans le lobby de Radio Campus Paris où il est actuellement 20h41 et c'est donc l'heure de l'agenda avec toi Aglaé. Et ce soir on parle d'un lieu culturel emblématique, d'un point névralgique de la militance queer et antiraciste à Paris, la Flèche d'Or dans le 20e arrondissement.
Et oui Colin, et ce soir on reçoit Rachida Djellab, responsable de la programmation de la Flèche d'Or. Salut Rachida.
Salut.
Ça va?
Oui ça va et vous?
Ça va. Est-ce que pour commencer, tu peux présenter à nos auditeuristes la Flèche d'Or?
Alors, la Flèche d'Or, c'est un lieu, donc, comme l'a dit Colin, emblématique du 20e. Il y a eu un historique avant le collectif qui occupe actuellement le lieu. Ça a été un lieu de fête, de concert, comme aiment beaucoup nous le rappeler tous les punks de l'Est parisien. Et c'est un historique qu'on néglige pas du tout, au contraire. Depuis 5 ans, du coup, c'est un collectif qui est composé de bénévoles et de salariés qui proposent une programmation, mais aussi des actions sociales et solidaires qui vont de la cantine à la maraude, en passant par l'accès aux droits. Et tout un tas d'activités proposées à des jeunes publics aussi les mercredis après-midi. Et bien sûr, la programmation culturelle du mercredi au samedi soir et parfois même le dimanche.
Et donc aujourd'hui, comme tu l'as expliqué, la Flèche d'Or, c'est un lieu qui est identifié comme queer et antiraciste. Mais comme tu as fait la blague avec les punks, est-ce que ça a toujours été une partie de l'identité du lieu? Comment c'était avant aussi?
Alors, comme c'est un lieu qui était quand même très porté vers le quartier, il y avait quand même une envie d'accueillir toutes sortes de publics à l'époque. Après, moi, c'est vraiment pas une époque que j'ai connue personnellement parce que je fréquentais pas le lieu. Et en plus, je suis pas de Paris, mais voilà. Mais c'est quand même... On l'observe très identifié par des anciens et des anciennes du quartier qui sont des personnes qui viennent sur la cantine ou qui sont devenues même bénévoles au sein du collectif et qui nous racontent l'historique. Donc en fait, c'est un peu nos archives aussi vivantes qui nous expliquent l'importance de ce lieu dans le quartier.
Alors, ce mois des fiertés s'annonce chargé à la Flèche d'Or et vous proposez des événements toujours aussi variés. Donc un peu comme tu l'as dit, on va avoir le droit à du théâtre, du cabaret, des concerts, des DJ sets, des projections, des tables rondes et bien plus encore. Alors comment est-ce que vous choisissez les collectifs qui vont faire partie de la programmation de la Flèche d'Or? Comment ça s'organise tout ça?
Alors il y a plusieurs canaux. Déjà moi je suis responsable de la programmation, mais il y a beaucoup de décisions qui se prennent en collectif. On a plusieurs groupes de travail qui proposent des contenus à la programmation. On a des formats de soirées qui reviennent en régularité, notamment une soirée qui s'appelle la Dykes and Friends, qui est autour de la poésie. Il y a de l'animation, il y a des jeux, il y a aussi des concerts de musique folk et aussi de musique punk. Donc c'est aussi pour se réapproprier la scène punk du côté queer. Donc ça c'est un des exemples de groupes de travail qu'on a à la Flèche. Et après, le reste de la programmation, il est construit aussi bien en partenariat avec les collectifs qui nous contactent. Donc là, historiquement, on a pas mal de collectifs qu'on accueille depuis les 5 ans d'existence, quoi, en régularité. Et après, l'idée, c'est aussi de pouvoir ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouveaux collectifs. Il y a tout un travail d'accompagnement que moi, je peux faire aussi avec des jeunes collectifs sur comment on construit une soirée, avec ma camarade aussi qui s'occupe des budgets de programmation, comment on monte un budget de soirée, etc. Et aussi selon nos impératifs, on va dire, financiers.
On va rentrer un peu dans les détails de cette programmation du mois de juin. Un des temps forts, un des temps réguliers d'ailleurs, puisque tu en parlais, c'est les soirées Habibi, ce fameux cabaret. Ce sera le 20 juin. C'est un peu une institution à la Flèche d'Or. Je ne sais pas quand ça a commencé par rapport à la réouverture il y a 5 ans. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ces soirées?
Alors du coup, les soirées Habibi, c'est porté par Javel Habibi, de son nom d'artiste, et donc Florent Gouelou, dans sa vie civile, qui est aussi réalisateur de films. La particularité des soirées Habibi, c'est qu'il y a toute une portée autour du cinéma. Souvent, on fait des doubles dates et au début des soirées, il y a une projection. Et Florent, Javel, invite des réalisateurices à présenter des courts-métrages avec une discussion publique qui est ensuite suivie par le show drag. Et l'idée, c'est d'avoir un peu ce format de drag show un peu hybride et aussi porté autour du cinéma parce qu'il y a une thématique à chaque fois. Et qui parle justement, par exemple, il y a la métamorphose au cinéma, c'est toujours porté autour du cinéma et les shows en fait sont proposés autour de ça.
Et il y a d'ailleurs une petite mise en abîme puisqu'il y a un film sur ces soirées qui s'appelle Alibi chanson pour mes amis de Florian Gouëlou, hein, je dis pas
exactement
de bêtises,
c'est ça.
Voilà, qui était projeté au dernier Chéri Chéri notamment.
C'est ça. Et qui tourne encore pas mal, là, qui va être reprojeté à Paris et autour de Paris notamment, donc allez le voir.
C'est noté.
Un autre événement moi, qui a retenu mon attention, c'est la pièce Roméo et Julio, dont on a parlé aussi dans un de nos épisodes avec son metteur en scène, le drag king Arthur Rainbow. Ce sera le 25 juin, ça pareil, tu nous rappelles un petit peu ce que ça raconte.
Alors du coup, c'est une réadaptation de Roméo et Juliette. Je vois, c'est trop bien.
Parce que j'avais loupé, j'avais trop le seum de ne pas pouvoir venir, donc je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle date.
25 juin.
À la Flèche. Et donc c'est une réécriture queer qui est portée donc par de jeunes réalisatrices, enfin metteuses en scène et actrices. L'idée, c'est aussi un format comédie musicale, donc ce qu'on fait quand même assez peu à la Flèche d'Or, et on avait vraiment envie de pouvoir accueillir ça pour le mois des fiertés. Ça nous semblait totalement aller dans la thématique. Donc voilà, ce sera le 25 juin, le jeudi.
Et comme on l'a un petit peu dit avant, il y a plusieurs pôles à la Flèche d'Or, notamment le pôle alimentation, qui organise des événements que vous avez baptisés Queer Food. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Alors, juste pour rectifier un petit peu là-dessus, la Queer Food, c'est vraiment un collectif qui était
okay.
C'est pas comme
autonome.
La cantine solidaire qui a lieu 4 jours d'accord. par semaine, autant
mais
pour moi.
mais qui s'est intégré par contre à la Flèche d'Or, parce que ce qui se passe à la Flèche, c'est que quand des personnes sont... s'investissent sur des actions ou des moments de programmation, etc. Et elles finissent souvent bénévoles sur d'autres moments, que ce soit les soirées ou que ce soit bénévoles, même à la cantine pendant la journée, etc. Et en fait, la Queer Food, c'est un collectif qui accueille un autre collectif invité pour récolter des fonds avec un repas à prix libre, très souvent végétarien et ou vegan. Et l'idée, voilà, c'est de le faire une fois par mois. À l'époque, alors je me souviens plus du lieu où a été accueillie la Queer Food, mais c'était un tout petit lieu et je ne saurais plus situer. C'était il y a trop longtemps. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était aussi de proposer un espace qui est quand même assez grand à la base, qui est une salle de spectacle en vrai, mais pour faire aussi du repas et dans la continuité de ce qu'on fait à la cantine le midi.
Voilà, et donc ce mois-ci, au mois de juin, pour le mois des fiertés, ce sera le 8 juin, cantine solidaire organisée donc par le collectif Insurrection Trans, qui vient en aide aux personnes trans victimes de violences conjugales.
Et puis un autre temps fort, cette année, pas de soirée post-Pride, mais une soirée à la veille de la Pride, avec une nouvelle édition de la soirée Cubénie.
Exactement. Alors, on en reparlera potentiellement après.
Okay.
Mais on n'a pas pu faire de soirée le soir de la Pride, parce que...
Donc le 28 juin.
Le 28 juin, exactement, parce qu'on a des impératifs financiers, comme je le disais tout à l'heure, on en reparlera suite au communiqué. Ouais. On accueille parfois des soirées en location ou en privatisation, et c'est le cas ce jour-là. On n'a pas pu malheureusement déplacer, c'est ce qu'on voulait d'ailleurs. Les organisatrices qui sont des bénévoles de la Flèche de la soirée Cubénie étaient là, bon, on espère quand même qu'il y aura du monde, donc on espère que les gens vont venir. Mais parce que c'est la veille, mais après je me
27
dis quand même, voilà, exactement. Et comme toujours, Cubénie avec une imagerie autour de du pape, mais vraiment détourné, on va dire. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi les textes qu'il y a autour des soirées en général. Et vraiment, Cubénie, c'est vraiment à chaque fois tout un truc comique
régal.
Qui est hyper drôle, avec la fumée rose qui s'échappe de la flèche. Enfin, voilà. Enfin, faut aller voir.
Faut aller voir sur la billetterie sur Shotgun. Alors, Rachida Djellab, vous nous avez aussi envoyé une playlist qui accompagne cette programmation particulièrement éclectique. J'ai noté que le 6 juin, vous proposiez une table ronde et une soirée de performance à l'occasion de l'apparition du livre Une brève histoire de la transmisogynie aux éditions Chat Publishing. L'occasion d'écouter un peu de Desert Girl.
Chaque nuit en secret, on s'introduit dans les toilettes des vraies femmes, comme on dit. On fait pipi debout sous les néons, car c'est notre projet et c'est notre passion.
Non mais moi je pense qu'elles ont quand même le droit d'être des femmes, même si elles n'ont pas de pénis.
Pénis de femme, mon genre, ton drame, regard de trave sur entrejambe, comme le...
Et voilà, et on me dit en fait que non, Desert Girl, c'est plutôt pour la soirée Cubénie. Je pensais que c'était une référence à cette soirée sur la transmisogynie. Alors Rachida Djellab, un petit peu de sérieux maintenant. La semaine dernière, la Flèche d'Or a communiqué donc sur les difficultés financières qu'elle rencontre. Vous l'expliquiez dans un post Instagram, votre modèle économique basé sur l'organisation collective et sur des valeurs d'accessibilité est un peu en tension. Comment est-ce que nous, le public, on peut soutenir la Flèche d'Or ?
Alors, il y a plusieurs choses qui sont expliquées dans le communiqué. Donc, l'idée, c'est d'abord de venir en tant que public, revenir ou de venir découvrir en tant que public la Flèche d'Or, surtout les moments d'ouverture, que ce soit aussi bien la cantine que sur toutes les soirées. Je rappelle aussi que les soirées, elles sont soit à prix libre pour la grande majorité d'entre elles, soit à des prix paliers. Donc prix palier, ça veut dire on paye le tarif qui correspond le mieux à ses moyens. Ça, c'est la première façon. Il y a une deuxième façon, c'est l'abonnement qu'on a mis en place justement au moment de se communiquer, qui permet d'avoir des réductions sur certaines soirées de la programmation. C'est un abonnement qui est annuel et qui est disponible sur Shotgun et sur notre site. Et enfin, il y a bien sûr les dons sur notre cagnotte et l'OASO.
Tout simplement.
Alors, il y a d'autres lieux comme Fawa dans le 19e qui ont fait état de grosses difficultés financières. Le projet de Fawa est assez proche de celui de la Flèche d'Or. D'ailleurs, de nombreux événements de la Flèche ont été délocalisés là-bas pendant la fermeture pour travaux que vous avez subis la saison dernière. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a toujours pas trouvé la recette miracle pour combiner engagement politique, inclusivité et équilibre économique ?
Alors, non. Malheureusement, parce que je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire au niveau des subventions sur ce genre de projet. Je pense que le territoire aussi parisien, il est hyper dense et condensé en termes de propositions culturelles. Il y a quand même pas beaucoup de propositions qui croisent les deux, que ce soit culturel, restauration et social et solidaire. Fawa en fait partie. On le voit aussi que ce soit Fawa ou la Flèche d'Or, on récupère quand même des lieux avec un bâtiment qui est parfois dans son jus, on va dire.
C'est l'ancienne gare de Charonne.
Exactement, pour la Flèche d'Or. Et pour Fawa, c'est l'ancienne péripate. Et du coup, un bâtiment qui est déjà situé sous le périph', mais qui en plus fait état de quand même beaucoup de travaux et d'amélioration à refaire. Et je pense que ça fait démarrer un projet social et solidaire et culturel et d'alimentation en partant avec ces difficultés-là, ce qui crée une charge mentale qui est assez, assez vive et qui ne permet pas d'avoir le champ libre, en tout cas l'état d'esprit libre complètement pour proposer des choses de qualité et aussi de structurer, parce que nous, on a réussi à salarier des personnes. Mais en fait, on se rend compte que sur le terme de l'accessibilité, notamment des tarifs, au début, la Flèche d'Or, tout était à prix libre. Et en fait, on se rend compte que économiquement, c'est pas tout à fait viable. Et la cantine aussi, enfin voilà.
Oui, voilà, le prix libre sur certains événements a été remplacé par les tarifs paliers dont tu nous parlais, avec des conséquences sur la fréquentation de l'établissement.
Des conséquences...
Est-ce qu'il y a eu moins de gens ? Est-ce que du coup, ça a été moins accessible ? Ça reste des prix, on est à 12 euros pour le tarif normal.
Équilibre, oui. Voilà. 8, 12, 16 ou 10, ouais. 15, 20 selon les soirées. Après, ça se justifie aussi, on est très transparente là-dessus, ça se justifie aussi sur le coût des plateaux artistiques potentiellement et aussi le coût des charges fixes, car chaque ouverture du lieu nécessite de payer ses charges fixes, donc les frais de fonctionnement, les salaires des personnes qui travaillent sur les soirées, etc. Donc on part déjà, je pense que c'est le propre de tous les lieux.
Merci beaucoup, Rachida Djellab. On retrouve la programmation de la Flèche d'Or dès maintenant sur le site de la Flèche d'Or et bientôt sur les réseaux sociaux. Et puis, on n'oublie pas de soutenir la Flèche d'Or. Et pour ça, mais pourquoi ne pas prendre vos places pour la guinguette du lobby ? C'est le samedi 7 juin à partir de 21h. Une soirée, je l'ai dit tout à l'heure, sur le thème de la transmission avec au programme un plateau radio avec des invités comme l'autrice Hélène Giannichini, l'historien Antoine Idier ou encore Mar et Ingrid de l'association Accept ST. Et puis des performances live, un showcase de Thanks for Crying, des DJ sets du collectif. With Us, il y a quand même fort à faire. Juste avant de se quitter, Mal, je n'ai pas de lancement pour ta chronique, alors je te regarde et je te dis, vas-y.
Eh bien, je vais vous raconter mes vacances. Je suis retourné en Écosse, c'était super. Alors, super vacances, là n'est pas la question. Avez-vous écouté les derniers hebdos ? Car je dois vous avouer que je n'étais pas très serein à l'idée d'aller aux toilettes publiques au Royaume-Uni.
Comme on en a parlé tout à l'heure avec Margot Magoudo.
Exactement, et je dois vous dire que ce n'est pas très très stylé comme problème, je sais. Mais depuis la décision de la Cour suprême qui définit les individus par leur sexe biologique, énorme R guillemets que vous ne pouvez pas voir, je devais donc aller dans les toilettes des femmes. Sauf que mon passing est celui d'un homme, celui d'une pédale sur les bords, je vous l'avoue. Et croyez-moi que si je pouvais être une pédale sur les bords et au milieu, ce serait encore mieux. Je suis quand même allé chez les hommes, j'ai bombé le torse et il ne s'est rien passé. Ouf, cette expérience somme toute absurde m'a inspiré ce petit guide afin de démonter un petit peu ces arguments des toilettes. Je vais donc vous demander de former un cercle dans le studio, s'il vous plaît, afin d'invoquer Jeanne Terf, une version certifiée chromosome XX biologique élevée en plein air de Jean Mascu, qui sera notre interlocutrice imaginaire. Alors, quelle est ta sagesse, Jeanne Terf ?
Bah, en fait, qu'il faut protéger les femmes des hommes qui se travestissent pour les agresser dans les toilettes.
Je vois. Alors ne tentez pas de lui expliquer que les femmes trans ne sont pas des hommes. Hein. Ce serait déjà trop pour le cerveau en décrépitude de Jeanne Terf. À la place, attaquez-la à coups de OnlyFacts. Donc si on réserve les toilettes au sexe biologique, en admettant qu'elle sache ce que c'est. Mais en fait, c'est une question piège parce que ça ne veut rien dire. Un peu de sérieux. Bon, du coup, les collègues transmasques, là, avec la barbe et la voix de Garou, là, doivent donc utiliser les toilettes des femmes. Ouais, ok. Donc, n'importe quel homme aurait légitimement accès aux toilettes des femmes. Donc, c'est pas un peu la porte ouverte à toutes les agressions, ça ? Ah, voilà. Elle est verte, la Jeanne Terf. Au passage, rappelons avec pédagogie et convivialité que les hommes n'ont jamais eu besoin de se travestir pour agresser les femmes. Jeanne Terf, dans son dernier souffle, arguera sans doute.
Mais de toute façon, ça se voit quand les gens ils sont trans. Hein. Enfin, toi, mal ça va, mais parfois...
Dis entre Zoé, tu fais si bien Jeanne Terf que je sors presque de mes gonds. Ma puce, ce qui se voit, ce sont les personnes qui sortent de la performance de genre stéréotypée blanche. Et oui, il y a des personnes trans qui le font. Ça existe, mais pas toutes. Et il y a aussi des personnes cis, en fait, roulement de tambourin loupé, qui ne se conforment pas aux stéréotypes de genre. Donc voilà, c'est dommage, tout le monde est en danger. Parce que cette décision amorce une situation très dangereuse, c'est que l'usage de l'espace public sera conditionné par votre capacité à performer le genre, en particulier pour les femmes, la féminité traditionnelle blanche. Et ça met en danger tout le monde, en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez pris des notes, car il va falloir se bouger. Et en plus, il y aurait une interro surprise. En effet, je vais manifester une Jeanne Terf dans votre vie, en beaucoup moins sexy et charismatique que l'interprétation de Zoé. Et vous devrez la terrasser à coups d'arguments. Alors bonne chance à vous et que le sort vous soit favorable.
Merci beaucoup Mal et merci Jeanne Terf pour cette prestation hors du commun. Merci beaucoup Zoé. Et ben voilà, je pense qu'on peut terminer l'émission sur ça. On dira pas beaucoup de trucs beaucoup plus intéressants que ce qu'on vient d'entendre. Alors je fais des signes pour que le générique de fin commence. Merci à toute l'équipe de l'émission. Côté interview, il y avait notamment Lucie, mais aussi Zoé et aussi Aglaé. Côté chronique, il y avait Mal. J'ai l'impression d'oublier quelqu'un. Il y avait Suzanne Finca à la réalisation. On n'oublie pas d'aller le 31 mai au Bal des Putes, c'est aux Trois Baudets. Puis le 27 juin, on y retourne puisque le spectacle n'arrête pas de changer. C'est à la Marbrerie le 27 juin et on va à la Flèche d'Or presque tous les jours et notamment le 7 juin à partir de 21h pour la guinguette du lobby. Dans un instant, vous le savez, on embarque pour le pays des raves. Salut Elodie.
Salut, oui, ce soir on parle fête, mais fête responsable. On va réfléchir à comment repenser nos espaces festifs pour qu'ils soient en accord avec les urgences écologiques et quels outils on peut construire pour une fête qui ne sacrifie ni l'ambiance ni la planète.
Je sens que ça va intéresser des gens dans ce studio. Merci beaucoup Elodie et à tout à l'heure, bonne émission, merci beaucoup. Passe une bonne soirée sur Radio Campus Paris.